La question du jour.
Hier, une étude copilotée par l'INSERM et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés révélait qu'un Français sur deux ferait bien de maigrir. L'obésité stagne autour des 15%. Ces résultats, issus d'une vaste enquête de santé publique lancée en 2012 auprès de 200 000 volontaires, confirment que devant l'obésité, nous ne sommes pas tous égaux. Bonjour Sébastien Tchernikov.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou et professeur de nutrition à l'université Paris Descartes, qui aujourd'hui est obèse en France.
Alors, on voit clairement dans cette étude menée par l'INSERM et l'assurance maladie que l'obésité va toucher les populations qui sont dans les zones les plus modestes. Bien sûr, ça va nécessiter un approfondissement par des géographes, par des sociologues de ces données, mais ce sont quand même des informations qu'on retrouve dans plein d'autres pays.
Comment l'expliquez-vous ? Parce que cela signifierait que la malbouffe, entre guillemets, est quelque chose qui se répartit de manière inégale du point de vue social ?
Alors, on peut envisager ça de différentes façons, mais clairement, par exemple, l'accessibilité aux structures de sport est peut-être moins facilitée dans ces zones-là. L'accessibilité à une alimentation diversifiée de bonne qualité est peut-être aussi moindre dans ces quartiers-là. On peut faire un parallèle avec une autre étude qui a été menée en Suisse sur une cohorte qui s'appelle Colos, et on a vu une permanence de l'obésité dans des zones géographiques sur au moins 5 ans. Donc finalement, on a quand même l'impression que ça s'organise autour de certaines zones géographiques particulières.
Est-ce que les hommes sont généralement plus en surpoids que les femmes d'après cette étude ?
Alors cette étude, elle montre deux choses. La première, c'est qu'effectivement, les hommes ont plus de surpoids que les femmes. Mais à l'inverse, si on va tout en haut de la distribution de l'indice de masse corporelle, on voit que les femmes ont un peu plus d'obésité sévère.
Et à partir de quand faut-il s'inquiéter ? À partir de quand cette étude considère donc qu'on a affaire à une population en surpoids ? Je crois que vous avez utilisé l'IMC, l'indice de masse corporelle qu'on ne peut pas calculer de tête. Mais enfin, comment se calcule-t-il en substance ?
Donc l'IMC, c'est un marqueur de dépistage qui est utilisé par les médecins, mais aussi par les chercheurs pour comparer des populations entre elles. Et l'IMC est le rapport du poids en kilos sur la taille en mètres au carré, donc pas facile à faire de tête. Au-delà de 25, on considère que c'est du surpoids. Au-delà de 30, l'obésité. Au-delà de 40, l'obésité sévère.
Mais alors, ce qui est intéressant dans l'obésité, Sébastien Tchernikov, c'est qu'on voit que celle-ci stagne en termes de pourcentage en France. En revanche, il y a de plus en plus de publications qui tendent à remettre en cause la dangerosité de l'obésité. Selon vous, faut-il véritablement s'inquiéter ? On lit par exemple qu'il vaut mieux être un peu replet mais faire du sport qu'être maigre et ne pas en faire. Que sait-on aujourd'hui à ce sujet ?
Alors, moi, je pense qu'il faut pas mélanger différents concepts. Il y a la problématique ou la perspective historique, et on voit bien que au 19e siècle, par exemple, en France, l'homme corpulent était quelqu'un de bien portant et qui était...
En tout cas, il était loué par...
Voilà, et c'était une bonne image dans la société. On voit toujours actuellement des pays où, dans cette perspective un peu plus sociologique, c'est valorisé. Et puis, il y a la dimension médicale, donc c'est une caractérisation médicale d'un indicateur statistique. Et qu'est-ce que cette approche épidémiologique montre ? Eh bien, c'est simple. Les personnes qui ont un IMC au-dessus de 40 ont un surrisque, ou de 30, un surrisque de toute une série de maladies qui vont venir s'agréger à l'obésité, une diminution de l'espérance de vie, une moindre qualité de vie, etc. Donc, il ne faut pas mélanger les considérations qui sont des considérations sociologiques et les considérations médicales.
Aujourd'hui, on imagine que c'est un marché énorme, l'obésité. Alors, c'est un marché énorme pour les régimes, les substituts alimentaires. Est-ce aussi un gros marché pour les médicaments ? La course aux médicaments miracles bat son plein.
Il n'y a actuellement aucun médicament de l'obésité disponible en France. Il y en a plusieurs aux États-Unis. Ce qui se développe pour les obésités sévères et qui doit rester une approche pour les obésités sévères, c'est la chirurgie de l'obésité qui est très développée en France. On est le troisième ou le quatrième pays au monde à pratiquer cette chirurgie.
Quels sont les problèmes liés à cette chirurgie de l'obésité ?
Alors c'est une chirurgie qui va avoir un problème principal qui est celui du suivi des patients, puisque au-delà de la part purement technique de cette intervention, les patients vont avoir des carences nutritionnelles après cette chirurgie et ils doivent être suivis à vie. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé d'ailleurs.
Donc du coup, en fait, la seule véritable bonne indication pour lutter contre l'obésité, c'est évidemment la manière de s'alimenter. Je vous ai vu d'ailleurs, vous avez fait la grimace devant les viennoiseries qui sont à l'entrée de ce studio. Ce sont pourtant de mini viennoiseries.
Alors j'aurais pu en manger puisque ma femme n'était pas dans les parages, mais je savais qu'elle allait m'écouter, donc je me suis retenu.
C'est ça qui pose problème, le fait
non,
de...
Je pense qu'actuellement il y a vraiment deux problèmes principaux, c'est la taille des portions, et vous avez raison de le souligner, les viennoiseries étaient petites, et puis deuxièmement il y a la densité calorique de l'alimentation. Donc si vous avez une offre alimentaire qui est permanente, et en l'occurrence les viennoiseries sont à l'entrée du studio, donc on les voit, on a envie d'en prendre. Et donc c'est la répétition de ce geste qui peut devenir problématique pour les patients.
On a également pointé du doigt le mauvais gras, ce qu'on appelle les transfats. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de transfats dans les viennoiseries et dans tous les produits généralement industriels. Oui. On peut imaginer que celles-ci le sont. Faut-il effectivement choisir son gras pour combattre l'obésité, Sébastien Tchernikov?
Non, ça n'est pas vraiment un sujet. La problématique, quand on a affaire à des patients qui sont en situation d'obésité sévère, n'est pas vraiment de savoir si ils vont consommer tel ou tel type d'acide gras.
Mais avant d'aboutir à ce stade, faut-il veiller là aussi au choix, utiliser une huile qui serait plutôt une huile végétale par exemple?
Alors, je pense qu'il y a un concept intéressant qu'on peut vraiment expliquer en quelques secondes, c'est que finalement l'obésité c'est une maladie chronique et souvent on confond les déterminants qui vont nous amener vers la maladie chronique et l'état de maladie où on est dans un stade de stabilité avec les complications associées.
Dernière question, Sébastien Tchernikov, est-ce que plus généralement l'obésité qui se diffuse à l'échelle de la planète tout entière est un problème lié à la transition alimentaire vers des régimes qui ne sont plus des régimes traditionnels ?
Oui, mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est la problématique de l'obésité comme un marqueur social. On voit souvent nos patients dans des situations de stigmatisation dans leur vie quotidienne et aussi dans des situations de moindre accès aux soins.
Merci d'avoir été avec nous ce matin.